Bon, ben
Cette
c'est.
conférence va maintenant être enregistrée.
Ok. Au cours de ces quelques sessions que nous avons partagées, ces moments d'échange, de dialogue, on a couvert une bonne partie du terrain, et en particulier, comment dire, le travail préliminaire nécessaire, avec une prise de conscience du conditionnement dans lequel notre esprit se trouve, alors même que sa nature profonde est d'être libre. Il y a une sorte de presque de drame qui se joue là. C'est presque une tragédie. On a une liberté, mais en même temps, elle est occultée par les habitudes, par l'ignorance, par comment dire, les cicatrices karmiques, et par une forme de division dans l'esprit qui se divise entre un sujet qui regarde et un objet qui est perçu dans cette tendance à la perception dualiste qui va être la source de beaucoup de souffrance du fait de la distorsion dans la perception. Donc, ça, on a vu ça et on arrive au moment où on se dit, bon, assez, il faut vraiment que quelque chose change. On est vraiment très, très engagé. Et donc, naturellement, on va chercher des moyens de transformation, des moyens de libération, et on va les chercher auprès de quelqu'un qui est détenteur de ces moyens. Donc, on a vu ça aussi, l'importance de trouver un maître qualifié qui soit le résultat d'une lignée de transmission qui remonte au Bouddha de façon ininterrompue, avec ce sorte de deux canaux de transmission. D'une part, le savoir, c'est-à-dire une transmission des textes qu'on va essayer au travers de maintenant plus de 2500 ans quand même, de garder aussi intact et aussi pur qu'au moment de leur énonciation. Donc, sans rien ajouter à ces textes, sans rien retrancher, en essayant vraiment de les préserver. Donc, ça, c'est le savoir. Mais le savoir n'est pas suffisant. Il faut avoir le deuxième canal de transmission, qui est la passation d'une grâce, d'une bénédiction qui est intangible, qui n'est pas forcément transmise par les mots et les concepts. Donc, c'est un canal de transmission qui est extrêmement, comment dire, difficile à intégrer dans sa vie. Et pour cela, il faut vraiment s'appuyer sur un maître qui est passé par cela, en quelque sorte, qui est passé par cette période de formation, d'abord scripturaire, au travers de l'étude et de la réflexion, puis contemplative, méditant avec l'aide de son propre maître, et obtenir donc une certitude et une réalisation de la nature profonde de l'esprit. Et là, à ce moment-là, la passation de cette grâce, c'est un petit peu comme une flamme. Il y avait les Jeux olympiques là, hein, on passait une torche à une autre. C'est partir d'un point qui sera Olympe, hein, là où le Bouddha atteint l'éveil, et puis passer la torche, le flambeau, comme ça, au travers du temps et de l'espace, en gardant cette force vive. Et ça, ce passage-là, il est vraiment à la fois terriblement simple et en même temps, de ce fait même, extrêmement compliqué. C'est très proche et très simple. Du coup, on a du mal à y croire et on a du mal à vraiment s'ouvrir à cette réalité, s'ouvrir à l'immanence de la grâce, à la présence de cette grâce qui est là. Et donc là, ça peut se faire qu'au travers d'une relation, et on a vu ce matin la relation à l'ami spirituel, l'ami de bien, le maître, quel que soit le nom qu'on va donner à cette personne. Et tout d'abord, on va chercher l'information. Ensuite, bah, on se met, comment dire, on s'expose. On va pas cacher nos névroses, nos travers, nos habitudes. Au contraire, on est là dans un. C'est comme si on allait chez le médecin, qu'il nous dit, bon, qu'est-ce que vous avez? Ah, moi, ça va bien. Je vais bien, merci docteur. Donc ça sert à rien. C'est pas la peine d'aller chez le médecin si c'est pour cacher la vérité. Donc il y a cette ouverture. Et puis une fois que ce travail est fait et que l'arrimage entre ces deux esprits se passe, là on peut avoir un transfert par multiples gestes, paroles symboliques, On peut mettre la main sur le dos de quelqu'un et ne pas avoir à dire je suis avec toi. Mais le ressenti de ce geste-là est beaucoup plus profond que le mot qu'on peut dire en distance, nous vous adressons nos prières les plus sincères et nos souhaits de rétablissement les plus prompts. Et on sent bien que ce sont des mots, mais qu'il n'y a pas la substance dedans. Donc, cette partie-là, cette passation, presque on pourrait dire allumer un feu de sagesse et de bienveillance, est indispensable pour avoir l'intégralité de la transmission. Le savoir ne suffit pas. Le savoir est important, mais il a ses limites. Et l'expérience doit prendre le relais parce que c'est dans l'expérience qu'on trouve la libération. Et on peut être guidé dans la découverte de cette expérience. C'est toute la fonction de cette relation entre maître et disciple. Donc, on a couvert ce terrain, d'accord? Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Maintenant, je pense que il est temps de parler de la méthodologie. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est ce processus de libération? Comment est-ce qu'il se déroule? Alors, quand on parle des enseignements du Bouddha, symboliquement, on dit il y a 84 000 enseignements du Bouddha, hein? 21 000 traitent de l'affliction mentale de la colère, 21 000 traitent de l'affliction mentale du désir, attachement, 21 000 traitent de l'affliction mentale de l'ignorance et de l'indifférence, et puis 21 000 restants, pour faire 84 000, la pesée, hein, pour faire le bon poids, traitent de l'interaction de ces trois poisons. En gros, pour résumer. Donc 84 000 options de travail, c'est quand même beaucoup pour une vie et pour une personne. Donc il est bien évident que dans ça, il faut aller, en particulier pour nous qui ne sommes pas dans un système ou une vie monastique, qui pouvons dédier l'intégralité de notre temps à l'étude, à la réflexion, à la méditation, d'aller à l'essentiel et de voir déjà, quels sont les fondamentaux et quel est ce que moi j'appelle la ligne claire au travers de cette profusion d'outils de libération, de trouver une ligne claire. Alors, ce qui m'inspire le plus, et j'ai été en ça guidé par à la fois Gyanu Rinpoche et Shama Rinpoche, c'est ce qu'on appelle l'entraînement de l'esprit. D'accord? En tibétain, on dit lojong. L'eau, c'est l'esprit, mais c'est surtout l'intelligence, la capacité à analyser, à comprendre, etc. Et djonghwa, c'est ce verbe tibétain, peut vouloir dire discipliner, polir, améliorer, quelque part aussi nettoyer, purifier. Donc c'est un affinement de l'esprit, un entraînement de l'esprit, un exercice spirituel, on pourrait dire. Et il y a de nombreux textes, mais un texte de référence s'appelle L'entraînement de l'esprit en 7 points. Il y a un slogan, c'est une succession de 95 slogans. Un slogan très important qui dit, il y a une seule intention derrière tous les enseignements du Bouddha. Tous les enseignements du Bouddha, une seule intention. Quelle est-elle? Vous avez 15 minutes. Comment? C'est plus que ça. C'est plus que ça. Oh là, ça va fuser, là, je sens. On va avoir du mal à passer le bâton. Allez, le bâton de Palabre, qui c'est qui le prend?
Se libérer de la souffrance, être libre.
Ok.
Se libérer pour pouvoir aider les autres à se libérer.
Se libérer pour pouvoir aider les autres à se libérer, ok?
La voie du milieu.
La voie du milieu. Tu veux développer ou tu restes juste sur l'énoncé?
Et ne pas nuire aux autres.
Apprendre à connaître son esprit.
Apprendre à connaître son esprit. derrière là-bas dans le fond. La jolie maman en rose.
Se défaire de l'ego.
Nous avons une gagnante. Pas que les autres soient des perdants ou des perdantes. Effectivement, bravo. L'instruction ou l'intention qui est derrière tous les enseignements du Bouddha, et vous pouvez faire une lecture de tous les enseignements du Bouddha, quels qu'ils soient, à la lumière de ça. Se défaire de la saisie égocentrique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par saisie égocentrique ? C'est de penser que le soi est une entité immuable, autonome, indépendante, qui n'est pas, en quelque sorte, reliée à ce qui est l'autre. Et donc, ça, c'est l'effet principal de l'ignorance qu'a l'esprit de lui-même. Il y a ce qu'on appelle une scission fondamentale. La qualité consciente de l'esprit, je vais aller doucement parce que ce n'est pas simple. En fait, ça l'est même. La qualité consciente, connaissante de l'esprit, ce qui connaît dans l'esprit, rajoute en quelque sorte à cette conscience, l'ignorance rajoute à cette conscience le sentiment que c'est un sujet, c'est une entité qui est connaissante. Et que donc, ce que connaît l'esprit, les objets que l'on perçoit au travers des sens, qui en fait n'est que le rayonnement naturel de l'esprit, serait en fait un objet extérieur, autonome, indépendant. Et donc, on crée un fossé entre les deux, entre le sujet et l'objet, dans lequel vont s'élever toutes les afflictions mentales. Parce qu'entre moi et l'autre, il y aura ce que j'aime, donc une forme d'attachement, de possessivité, ce que je n'aime pas et que je ne veux pas voir, donc il y aura exclusion, rejet, etc. Et puis, il y a ce qui ne me touche pas, donc il y aura une forme d'indifférence. On a là donc les trois premiers poisons, les trois premières afflictions mentales. À la suite de ça, on va poser des paroles, on va poser des actes, il y aura des contre-coups, des conséquences à ces actions, et on va mettre en marche un cycle de douleur, parce que lorsque le contre-coup nous revient, on le prend comme une attaque de l'extérieur et on doit, à juste titre, s'en défendre. Et donc, on développe de l'attachement ou on développe de la colère, etc. Et donc là, on a un mécanisme perpétuel, pratiquement, qui fonctionne sur la base de la méprise de l'esprit. L'esprit ne se reconnaît pas. Il est aveuglé et entre dans cette perception dualiste du fait de l'ignorance. Et donc, le problème principal, ça va être de regarder ce qui nous semble être une entité solide et indépendante, et quelque part, puisque c'est le sujet qui regarde, plus importante que le reste. Hein, que le point de vue du sujet est le plus important, le plus juste, etc. Et donc, toute une série de réactions vont naître de ça. Et de commencer à... En fait, par la réflexion, à attaquer ou à, comment dire, à démonter le mythe. Qu'est-ce que le soi ? On va regarder de plus proche et on va voir, on va rechercher avec une méditation très simple qui s'appelle le placement, les quatre placements de l'attention. On va placer notre attention sur est-ce que le soi est dans le corps ? Et on va démonter le corps. Est-ce qu'il est dans les muscles, la peau, les dents, les cheveux, etc. Et plus on cherche le moi dans le corps, plus on trouve de non-moi dans ce corps. C'est un petit peu lorsque, peut-être pour prendre un autre exemple, lorsque l'on veut essayer de comprendre ce qu'est une voiture, hein, on la démonte pour essayer de trouver... la voiturité, le nucléus, ce qui est vraiment immuable et que l'on peut absolument définir comme étant la voiture. La voiture, c'est une convention nominale. On s'accorde à dire c'est une voiture ou une automobile, même d'ailleurs ça peut avoir plusieurs noms. Mais cette convention nominale ne traduit pas une réalité indépendante, autonome, permanente et substantielle. Si l'on place son attention sur le corps, on va voir que effectivement, comme la voiture, eh ben, il y a différents éléments. Alors, on va prendre ces éléments les uns après les autres. Bon, on a démonté la portière. Alors, mais il y a la garniture. Bon, après, il y a la petite manivelle pour faire tourner la vitre. Ah, puis, il y a de la glace. La glace, c'est de la silice. La silice, il y a du sable. Voilà, etc. Et à chaque fois, on trouve beaucoup de non-voitures quand on démonte la voiture. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce que l'on appelle la voiture n'est pas une réalité monolithique, mais c'est ce qu'on appelle un agrégat. C'est-à-dire que c'est une collection d'éléments qui s'intègrent, qui s'imbriquent, qui sont en interaction dans un flot constant. Ce qui fait que la voiture, elle est en constant changement. Depuis le moment de sa fabrication, où on fabriquait une voiture avant même qu'elle soit sortie de la ligne d'assemblage, au moment où elle est toute neuve et on la sort du concessionnaire, où on a la voiture, la première égratignure, qui est le rappel de l'impermanence et de la mort, et puis et de fil en aiguille, les pièces qui tombent, les pièces de rechange, etc. Comme notre corps, il n'y a pratiquement pas de cellules d'origine qui existent dans notre corps. Depuis le moment de la création, tout a été remplacé. Quelques petites parties survivent un peu plus longtemps que les autres. Et donc, on commence à démonter le mythe du soi. Et on commence à voir donc dans ce démontage qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des agrégats, et que ces agrégats, ils sont en relation avec d'autres agrégats, que ce soit des personnes sensibles, c'est-à-dire des personnes douées d'esprit, de conscience, ou bien que ce soit des objets matériels, et qu'il y a en fait plutôt un réseau, plutôt une trame, une toile, qu'une opposition des blocs, des îles en quelque sorte. Et l'ignorance fait que l'on succombe à la tentation de l'île et qu'on se pense comme étant autonome, permanent, indépendant, etc. Et on peut appliquer la même recherche que l'on a appliquée sur le corps, sur l'esprit, sur les pensées, sur les sentiments, etc., etc. Sur les perceptions, tous les phénomènes mentaux, etc., et les phénomènes extérieurs. Et on s'aperçoit qu'il n'y a de solidité. Mais on ne tombe pas dans un extrême, un abîme du vide et du rien, parce qu'en fait, effectivement, il y a une table. Quand bien même cette table, on ne peut pas trouver sa tabléité, mais il y a quand même quelque chose qu'on appelle une table, et on prend conscience que nous parlons de convention nominale. On s'accorde à dire que je suis ici et vous êtes là. Mais le fait de démonter ce mythe nous permet de désinvestir l'espèce d'obsession de la sécurité et de la satisfaction du soi. Et donc de commencer à avoir une conscience de l'autre. L'autre est un être sensible comme moi, qui est empreint des mêmes qualités, qui a des aspirations finalement très semblables aux miennes. Personne ne veut souffrir, tout le monde veut avoir une forme de sécurité, de satisfaction. Donc nous sommes très très semblables et nous sommes aussi, de manière égale, aussi confus et maladroits. Et donc là, il y a une tendresse qui commence à naître à l'égard de l'ensemble des êtres, qui vient du fait que l'on a commencé à démonter le mythe de la solidité du soi, le soi de l'individu ou le soi des autres et le soi des phénomènes. Oui.
Vendredi, quand vous avez commencé à enseigner, vous avez parlé de la perception à la perspective. Et si j'ai bien compris, en fait, j'ai compris que comment je voyais le monde Moi, Fanny, je vois le monde et je pense que tout le monde voit le monde comme moi. Et justement, si on ne se différencie pas de l'autre, si on est dans l'empathie, on peut projeter sur l'autre nos propres pensées et pas justement vraiment être... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe en fait entre... on est tous des êtres humains avec des émotions. Et d'un autre côté, si on considère que l'autre, il est tout à fait comme moi, on va peut-être se leurrer parce que c'est ma perception que je projette sur l'autre. Enfin, vous voyez.
Très clairement. Oui.
Bon.
C'est le problème de la qui est. Je ne sais pas si c'est un problème. Enfin, c'est un fait. Un fait de pratiquement de l'impossibilité de la communication. Alors, bon, c'est un peu lourd quand je dis ça comme ça. Étant donné que ce que l'on voit du monde et que l'on pense être une vérité objective n'est que notre lecture subjective. Et que même ça va plus loin si on veut, ce monde n'existe pas en soi comme une réalité objective pour laquelle on projette une perception subjective. Ce monde n'est que notre perception subjective. Et chacun d'entre nous est dans cette perception subjective. Et donc, lorsque l'on essaye de communiquer avec l'autre, ce qui se passe, c'est que Trungpa Rinpoche le décrit très bien, il dit « nous maquillons le monde ». C'est-à-dire que nous projetons nos couleurs sur le monde. Anaïs Nin a écrit « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. » Donc, moi je dis, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis « Parfois je suis un raconteur d'histoire, parfois je suis un maquilleur. » Make-up artist. Donc, je projette mes couleurs sur le monde. Ça, c'est la perception. La perspective, c'est de faire un pas de côté et se dire « Tout le monde a une histoire. Tout le monde maquille le monde. Son monde est aux couleurs de ce que son esprit perçoit. » Comment est-ce qu'on entre en contact? Comment est-ce que ces deux rêves échangent quelque part? D'abord, ce qu'il est important de faire, c'est de passer de la perception à la perspective, de bien comprendre qu'il n'y a pas de solidité absolue et objective dans la réalité que nous percevons. C'est une réalité subjective, mais pour autant qu'on le vise, nous semble extrêmement réelle, et elle l'est. Et c'est là où tu parlais de la voix du milieu, alors je ne sais pas si tu faisais référence à cela, c'est que les choses n'existent pas, mais ne sont pas non plus non-existantes. Donc, la difficulté de la communication, c'est qu'on a deux personnes qui parlent de choses subjectives en étant convaincues qu'elles parlent de la réalité objective. Et donc, c'est ce qu'on appelle les conflits du bon droit. Je ne sais pas comment traduire ça en « righteousness » en anglais, le « self-righteousness ». Je suis dans mon bon droit. C'est comme ça, les choses devraient être comme ça, tu devrais comprendre. Toutes les méprises, tous les conflits, toutes les oppositions, toutes les intolérances, tous les fondamentalismes naissent de ça. Alors, si l'on s'ouvre à la perspective, moi ce que je dis souvent aux gens, c'est raconte-moi ton histoire, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Et je vais voir comment cette personne lit son monde. Quel genre de maquillage Fondation Mascara est rouge, elle projette sur son monde, quelle histoire elle se raconte, et je commence à pouvoir, moi, lire dans mon monde un peu son... J'ai accès à son lexique. Et donc, je peux essayer de transposer mon histoire dans son langage. Et on arrive à un moment de ce que Dzongsa Khyentse Rinpoche appelle une mécommunication réussie. une mécommunication réussie. C'est le mieux qu'on peut faire. Et donc, les rêves se croisent. Et l'image que j'essaie de donner pour ça, c'est les éclairages de théâtre qui se faisaient avec des gels avant, hein, avec des filtres de couleurs. Donc, on a une lumière qui est la lumière, la luminosité de l'esprit, qui est la même. On a un filtre bleu, la pièce est bleue. On a un filtre bleu, on met un filtre rouge, la pièce est rouge. Un tel a le filtre bleu, une telle a le filtre rouge. On met les deux, on a un filtre mauve. D'accord ? On a une couleur mauve dans la pièce. La couleur mauve n'appartient ni au rouge, ni au bleu exclusivement. Il appartient à ce moment d'échange. Et c'est quelque chose de merveilleux et de magique parce que, et on retrouve là un peu aussi la relation à l'ami spirituel et comment la grâce entre, comment d'un esprit à un autre esprit, la grâce peut être transmise. Parce qu'il y a ce moment de synchronicité des rêves. Moi, j'ai vécu des nombreuses années avec mon maître, avec Gendun Rinpoche. J'ai vraiment aucune idée profondément, enfin j'ai des idées, mais je n'ai aucune certitude quant à sa façon de voir le monde. Je ne sais pas. Et je pense aussi que lui n'avait peut-être pas non plus pas pénétré intégralement mon rêve. Mais il y a eu un croisement qui a suffi pour que la grâce passe, pour que les mots, on puisse s'accorder sur un langage. Lui, il ne parlait que tibétain, donc il a fallu apprendre le tibétain, faire un effort de notre côté, etc. etc. Donc, cette réflexion-là sur le principe de communication, on pourrait faire une semaine sur ça. C'est vraiment fascinant. Et je pense que ce que l'on peut essayer de tenter d'atteindre, c'est cette mécommunication réussie. Et sur la base de quoi ? Forcément, ça va être sur une base libérée des intérêts égocentriques. Si les deux protagonistes sont arc-boutés sur leur perception du monde et veulent convertir l'autre à leur perception du monde parce qu'ils pensent que c'est une réalité objective dont ils sont les tenants, il n'y a aucune possibilité de communication. Ce terrain commun, c'est le terrain de la bienveillance et du discernement. C'est l'esprit d'éveil. Ce qu'on appelle bodhicitta en sanskrit, citta, l'esprit, bodhi, l'éveil. L'esprit d'éveil, c'est ce terrain de bienveillance qui s'exprime par les souhaits, puissent tous les êtres avoir le bonheur et les causes du bonheur. Ça, c'est l'amour. Hein? L'amour, c'est un espace ouvert, accueillant, chaleureux, qui ne juge pas. C'est juste des bras ouverts. Et donc, il faut sortir de l'égocentrisme. Pour sortir de l'égocentrisme, il faut voir que l'ego n'est qu'une somme d'agrégats qui n'a pas de réalité profonde. Comme un mirage, c'est comme une illusion d'optique. Ça apparaît comme réel, mais ça n'a pas de réalité substantielle. Une fois qu'on s'est un petit peu dégagé de ça, de cette obsession égocentrée, mon succès, ma sécurité, ma protection, moi, hein, qu'on sort du moi Ayana, hein, le véhicule du moi, hein, on peut commencer à voir que l'autre existe. Je dis souvent, on commence par un nombrilisme effréné, on se regarde le nombril, et puis simplement, on lève la tête, on regarde autour, on dit « Ah ben vous êtes là ? Vous êtes là aussi ?» Ça, c'est la première étape. Sortir du nombrilisme, qui naît de l'ignorance, de la peur et du désir. La peur et le désir, c'est la peur de rencontrer ce qui est douloureux ou ce que l'on pense être douloureux, et le désir de rencontrer et maintenir ce qui est plaisant, agréable, facile. Mais en fait, les deux ne sont pas tellement éloignés l'un de l'autre. En fait, les deux sont du désir. On a le désir de ne pas être confronté au difficile et on a le désir d'être, de jouir du facile. C'est le désir et l'ignorance qui créent cette fixation, on pourrait dire cette crampe. L'ego, c'est une crampe. Et du coup, il n'y a pas de fluidité. Donc, quand on sort de ça, par l'étude, par la réflexion, sur en particulier les agrégats, etc., ce qui est vraiment le soi, on commence à effectivement ouvrir et on passe de perception à perspective. Et en ouvrant, il y a ce sentiment de tendresse, peut-être, on pourrait l'appeler comme ça pour commencer, parce que on voit les êtres qui sont terriblement comme nous, qui recherchent le bonheur et qui veulent éviter la souffrance et qui sont extrêmement maladroits. Et on se rend compte que tous, nous sommes cons, mais attachants. On ne sait pas comment s'y prendre et on a envie. Et donc, on trouve là une sorte de... Moi, j'appelle ça la fraternité de galériens. Hein? La fraternité de galériens. On est tous sur le banc de nage. Et on rame, et en plus on s'en mêle les rames. Hein? Et donc là, il y a une tendresse qui vient simplement du fait qu'on a levé le nez de son nombril et qu'on a vu l'autre, non pas comme une proie ou comme une menace, mais comme un frère, comme une sœur. Hein? Dans les enseignements tibétains, on dit « regardez-les tous ». Comme une ancienne mère. L'image de la mère idéale qui donne la vie, qui nourrit, qui éduque, etc. Nous avons tous été les parents les uns des autres depuis le temps qu'on tourne dans ce cirque. On a joué tous les rôles dans le cirque. On a fait clown, trapéziste, monsieur loyal. On a même fait le lion à un moment. Hein? Les petits chiens aussi, les petits loulous de Poméranie. On a tout fait. Et donc, là, il y a un regard amusé et tendre, et c'est l'amour. Et ce n'est pas encore quelque chose qui est actif. L'amour, ce n'est pas forcément actif, pour commencer. C'est simplement un espace accueillant et tendre. Et ensuite, on voit la souffrance des autres. Plus on comprend notre propre souffrance, les causes de notre souffrance, plus on est à même de voir la souffrance des autres, les causes de leur souffrance, et travaillant sur nous, on travaille pour l'autre, travaillant pour l'autre, on se libère aussi. Et donc là, c'est la compassion. La compassion devient quelque chose... La compassion, c'est la forme active de l'amour. Hein? On compatos, on partage la douleur parce qu'on la connaît. Et donc aussi, autant nous avons l'envie de nous en libérer que nous avons l'envie d'aider l'autre. Nous ne pouvons avoir cette envie d'aider l'autre que si nous nous sommes libérés de notre tour d'ivoire. Oui ?
Est-ce que vous pourriez revenir encore un peu sur la question de l'amour, par rapport à la compassion ? Vous avez dit un cœur... ouvert, accueillant. Est-ce que également l'amour, c'est donc quand je l'entends comme ça, je l'entends un petit peu comme une sorte de qualité de notre être. Est-ce que c'est pas aussi l'amour autre chose d'extérieur à nous et d'une autre forme de puissance?
J'ai pas compris là parce que c'est très confus le son.
Ah. Oui. Trop près, hein, peut-être. Oui. Comme ça. Est-ce que ce n'est pas aussi l'amour quelque chose d'extérieur à nous, pas uniquement notre qualité, mais quelque chose qui vient nous nourrir et,
qui viendrait d'où, selon toi, si c'est extérieur
Oui.
Parce que, est-ce que j'entends bien? Tu dis, peut-être à un moment donné, nous sommes dépourvus de cet amour, puis nous sommes nourris. Et donc, quelque part, un manque est comblé par cet apport extérieur. C'est ça que tu veux dire?
Pas tout à fait, mais il y a quelque chose comme ça. Mm-hmm. Pas si coupé que ça, c'est peut-être quelque chose qui se révèle, mais il y a effectivement, je veux dire, oui, quelque chose, oui, dans ma perception, il y avait quelque chose, oui, entre l'extérieur et l'intérieur.
Mmh. Ok. L'amour est une des qualités fondamentales de l'esprit. L'essence de l'esprit est insubstantielle, insaisissable, immatérielle. Mais cet espace n'est pas un espace neutre, un espace stérile. C'est un espace doté de clarté, de compassion, d'intelligence, etc. Donc c'est un espace qui est chargé d'énergie. C'est ça, son rayonnement, sa nature, en fait. Et donc l'amour est présent dans l'esprit, mais reste invisible à un esprit qui est obsédé, entièrement obsédé par sa sécurité, son succès, etc. Et quand on sort du nombrilisme, un tant soit peu, et qu'on commence un peu à regarder le monde, simplement prendre conscience qu'ils sont là, eh bien déjà quelque part, on lève un peu la brume de l'égocentrisme qui couvrait la qualité foncière fondamentale de l'esprit qu'est l'amour. Et donc, en fait, ce n'est pas tellement qu'elle arrive, c'est qu'elle est visible, elle est rendue visible. Parce que tout le bruit, tous les parasites de l'égocentrisme ont été mis en pause pendant un petit instant. C'est comme l'ombre et la lumière. S'il y a des causes pour l'obstruction de la lumière, eh bien, on a l'obscurité. Mais si les causes de l'obscurité cessent d'opérer, eh bien la lumière réapparaît. C'était une question que m'avait posée planche de réflexion Kenpo Tsutrim Gyamso. Quand tu allumes la lumière, où part l'obscurité ? Ça fait 40 ans. Je continue à travailler sur ça. D'accord ? Quand tu allumes la lumière, où part l'obscurité ? Et je pense que l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas inexistant, puis qui apparaît par une construction quelconque. C'est une qualité intrinsèque de l'esprit qui est libérée lorsque l'égocentrisme frénétique est mis en pause pendant un instant. Et donc, de ça va continuer, le reste va venir, c'est voyant avec tendresse les êtres et voyant la situation kafkaïenne dans laquelle ils sont complètement embourbés, on a naturellement l'envie de les aider. On se sent quelque part semblable à eux, on comprend leur souffrance et on a envie de les aider. L'amour devient actif. C'est comme une précipitation. La souffrance rencontrant l'amour fait une précipitation qui est la compassion. La compassion est engagée, elle est active. L'amour peut être un sentiment ouvert, pas forcément engagé. L'aspect engagé de l'amour, c'est la compassion. Et pour continuer cette œuvre, qui n'est pas simple, parce qu'il faut se défaire de plus en plus de l'habitude de l'égocentrisme, il faut relever son nez du nombril en permanence, s'ouvrir au monde, ne pas être dans le jugement, accueillir et ouvrir avec amour et répondre avec compassion à toutes les besoins, à toutes les situations où une aide est absolument requise. Il faut trouver une force motrice pour continuer à faire ça. Et ça, c'est la joie. C'est la troisième des quatre infinis, des quatre pensées infinies, ce qu'on appelle brahmacharya en sanskrit. Brahmacharya, brahmavihara. Brahmavihara, vihara, c'est un oasis, c'est un monastère, c'est un lieu sacré. Et brahma veut dire pur. Donc, c'est l'établissement dans les pensées de pureté les plus absolues que l'esprit humain peut créer, l'amour, la joie, la compassion et l'équanimité. Donc, l'amour commence le travail, la compassion est l'expression, le précipité de l'amour rencontrant la souffrance. Il y a une immense joie à faire ce travail parce qu'on voit qu'il y a des êtres en souffrance et il y a un soulagement. Et donc, la joie apporte l'énergie. La joie et l'énergie sont synonymes. Il n'y a pas d'énergie s'il n'y a pas de joie. Et il y a beaucoup d'énergie quand il y a la joie. Et la joie, c'est quoi? C'est le sens. Ce qui fait sens apporte la joie. Ce qui est insensé ne fait pas sens. Et donc, il n'y a pas de joie puisque ça paraît complètement absurde, tout ça. Et c'est pour ça que parfois dans la vie, on perd la joie et on perd l'énergie. Parce qu'on a perdu le sens de l'engagement. Donc, l'amour et la compassion, le précipité donc de l'amour, donnent du sens à notre existence. Un sens qui n'est pas non plus piraté par l'ego. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un bonbon pour cet ego, puisqu'on commence à sortir du mythe de l'ego solide et autonome. On se libère de ça, on se libère de l'égocentrisme. Et donc, on a une joie qui est une joie sincère et profonde lorsque l'on voit l'ensemble des êtres aller mieux, aller dans la bonne direction, direction c'est-à-dire de liberté et se défaire de tout ce qui est source d'aliénation. Donc, il y a une grande joie et donc la grande joie amène beaucoup d'énergie. Et puis, la quatrième pensée infinie et pure, c'est celle de l'équanimité. Parce que s'il y a une préférence, si on va avoir de l'amour et de la compassion pour telle catégorie de personnes, ou un voisinage, ou une communauté, ou une église, ou ce que l'on veut, on n'est pas dans la compassion, on n'est pas dans l'amour, on est dans le clientélisme, on est dans le désir de voir nos proches, ceux qui font partie de nous, qui sont en fait une extension de nous, pas avoir des conditions aussi agréables que les miennes. Et donc, il y a une ségrégation qui s'installe. S'il y a une ségrégation, l'amour, la compassion et la joie sont entachés. Donc là, c'est vraiment le point qui fait une grande différence, ce point de l'équanimité. Donc, sur cette base-là, on va commencer à engager un travail de métamorphose et il va y avoir deux grandes pistes que l'on va travailler simultanément ou bien en parallèle. D'un côté, continuer à cultiver le discernement à propos de la nature de la réalité, à propos de la nature de l'esprit, à propos de la manifestation des phénomènes, etc. Comme qu'est-ce qu'il disait, connais-toi à toi-même, connais-toi. Se connaître soi-même. Et puis d'un autre côté, cultiver encore davantage l'amour, la compassion, en particulier au travers d'une série d'exercices qui ont à voir avec la générosité, avec l'éthique, avec la patience, avec la joie persévérante, hein, la persévérance qui vient de la joie, une stabilité mentale qu'on va gagner au travers de la méditation et de la pleine conscience. Et puis, un discernement que l'on va commencer à approcher par l'observation de la nature de l'esprit qui va culminer dans ce qu'on appelle, nous, le grand saut, c'est-à-dire une vraie réalisation de la nature de l'esprit et donc de la nature de tous les phénomènes que l'esprit perçoit et produit. Donc, ces deux ailes de bienveillance et de discernement, c'est ce qu'on appelle les deux aspects de l'esprit d'éveil. Les deux aspects de l'esprit d'éveil en mode relatif, c'est-à-dire la relation entre soi et les autres, quand bien même elle est comprise comme étant une illusion, néanmoins, aussi longtemps que l'illusion est perçue comme réelle, elle est réelle. Donc, une compassion qui va aller vers une libération progressive de la saisie dualiste. Et le travail en, en mode plus ultime, c'est d'aller chercher le tissu, comme disait Shakespeare, quel est le tissu dont sont faits les rêves? D'aller chercher le tissu de la manifestation par l'observation méditative. Le travail du calme mental, de la vision pénétrante et le grand saut. Donc ça, c'est les deux grandes pistes de développement spirituel, ce qu'on appelle l'entraînement de l'esprit. L'esprit d'éveil dans son mode absolu, l'esprit d'éveil dans son mode relatif. Et on va les travailler en parallèle, de façon un petit peu dissociée, parce qu'elles ont des modalités de développement un peu différentes. Mais in fine, au terme, lorsque la maturité dans les deux courants s'élève, en fait, elles vont se rejoindre. Elles vont fusionner dans l'expérience du Mahamudra et en particulier dans l'expérience de la nature de l'esprit comme étant l'union de la vacuité et de la compassion. La qualité de l'esprit est compassion, son essence est vacuité. Donc c'est vers ça que l'on tend. J'essaye de faire vraiment court là. Hein. Je suis désolé, on pourrait partir pour 2 mois. Pourquoi on pourrait?
Donc l'essence de l'esprit est vacuité et sa
Sa
qualité
nature et
et sa
compassion.
nature est compassion. Pourquoi sa nature est pas amour?
N'est pas quoi? Je m'excuse,
Amour,
c'est très.
amour, amour plutôt que compassion.
Compassion implique amour. On ne peut pas avoir de compassion sans amour. Alors, attends. On fait une paire ici. La nature de l'esprit et compassion et vacuité. Si on attaque d'un autre angle la nature de l'esprit, on peut dire c'est aussi l'union de la luminosité, de la clarté et de la vacuité. Si on aborde l'esprit par un autre angle, on peut dire c'est l'union de la félicité et de la vacuité. Hein? Donc, ce n'est pas exclusif. Ce que je veux dire quand je dis l'union de la compassion et de la vacuité n'exclut pas d'autres qualités de l'esprit. Ce n'est pas ça ou rien. C'est un aspect, un angle particulier. Dans l'entraînement de l'esprit, l'angle d'accès à la nature de l'esprit, ça va être l'angle de l'union de la compassion et de la vacuité. D'autres pratiques, on va mettre l'accent davantage sur l'angle d'accès, va être davantage l'union de la félicité et de la vacuité. Hein? Ce sont des pistes d'accès à une réalité qui est unique et qui n'exclut pas. Qui n'exclut aucune de ces autres possibilités d'accès. C'est un peu beaucoup pour le soir, non? Alors, est-ce que vous avez des remarques ou des suggestions? Merci pour l'entrée en matière.
Ouais, moi, la question de Xavier, elle me fait penser, comme on parle de la grâce des éveillés qui se transmet, qui nous permet à nous, quand on en bénéficie, bah, de lâcher prise ou de faire des expériences de, enfin, moi je dirais de lâcher prise. Mais l'amour aussi, en fait, on reçoit des parents qui du coup ils donnent de l'amour en sortant de leur ego, en s'occupant d'un autre être, ou de plein d'autres personnes qui font preuve d'amour. Et parfois, parfois quand on est fermé sur soi-même, c'est grâce à une forme de grâce qui vient de l'amour de quelqu'un qu'on reçoit. Et quand on n'en reçoit peut-être pas assez pour certains, on l'oublie, quoi.
Tout à fait. Ça rejoint ce que j'expliquais hier, je crois, ce texte, Le chemin de la purification, le Visuddhimagga, et l'ami cadeau. Hein? C'est-à-dire que cette personne qui arrive dans notre vie de façon totalement inopinée, et je disais, le texte nous dit, la description de cette personne, c'est une personne qui rit d'abord et qui parle après. Donc, c'est quelqu'un comme ça de très joyeux et qui fait entrer de la joie dans notre vie. Et peut-être qu'on a eu une vie où on n'a pas été suffisamment exposé à cette joie. C'est un révélateur. Donc, on est d'accord qu'il y a un catalyseur extérieur qui permet d'entrer en contact avec une qualité latente, endormie, qui est en nous déjà. Parce que si l'esprit n'était pas doté de l'amour comme qualité inhérente, intrinsèque, on pourrait avoir tous les catalyseurs du monde. C'est comme si tu n'as pas de poudre et que tu peux allumer toutes les allumettes que tu veux, ça ne va jamais exploser. Donc en fait, je pense qu'il faut le voir plutôt comme un élément extérieur révélateur qu'un apport extérieur de quelque chose dont nous étions démunis. Ça vaut pour l'amour, ça vaut pour la compassion, ça vaut pour la joie, la grâce dans la relation au maître, dans ce moment un peu magique qui se passe, où un esprit rencontre l'autre. Dans l'élan amoureux aussi, lorsqu'il est libéré du romantisme un peu niais et qu'il y a un vrai amour qui dépasse l'intérêt personnel, ce qu'on appelle un amour non référentiel, un amour qui est sans référence à moi qui ai de l'amour à donner à quelqu'un qui va en échange me rendre, parce que ça c'est de la transaction commerciale, hein, et on essaye toujours de faire avoir un revenu sur investissement qui soit supérieur à l'investissement initial. C'est de bonne guerre. Donc, on ne parle pas de ce type d'amour, hein, dans ce cas de figure. Et je crois que c'est important de voir ça, c'est que tous les éléments qui viennent dans notre vie vont peut-être mettre le feu aux poudres de quelque chose qui existe déjà. Donc, l'idée dans ce texte, le chemin de la purification, c'est qu'il y a des êtres qui sont des cadeaux, qui sont vraiment une bénédiction, qui n'ont même pas l'intention d'éveiller en nous ces qualités. C'est simplement quand les bois sont frottés les uns contre les autres, ça fait du feu. Hein? Bon, ça prend du temps souvent, mais si le bois est bien choisi, ça fait du feu. Donc, la rencontre avec ces éléments va créer une réactivité en nous. Mais là, pour que la réactivité s'élève, il faut que ce potentiel soit déjà présent. Sinon, rien ne pourrait se créer, puisqu'il n'y a pas la base, il n'y a pas l'élément fondamental. Et c'est vrai que certaines personnes qui ont une enfance, une grande partie de leur vie dépourvue d'amour, etc., ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le ressentir en eux parce que, quelque part, il n'y a jamais eu d'allumage de ce sentiment par un exemple d'amour et de bienveillance. Mais en même temps, je crois que le moindre geste d'amour va mettre le feu aux poudres, même si on a eu une vie dépourvue de ça. De temps en temps, je regarde, pour passer le temps, des vidéos sur YouTube. Je sais, vous savez, vous ne faites pas ça, vous, mais je fais ça de temps en temps. Et je suis toujours le truc qui me... Je me dis, non, il ne faut pas que tu regardes ça. C'est les chiens, les petits chiens abandonnés dans une poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas regarder, mais il faut que je regarde. Alors, il y a une espèce de pauvre chien qui est squelettique, etc. Et qui, à l'évidence, a été maltraité, jamais aimé, jamais même un contact affectueux d'un humain, d'accord. Et il y a une personne de bonne volonté, généralement, qui récupère cette bête qui est vraiment nauséabonde et décharnée, etc. Et on voit le veto, la nourriture, machin, etc. On voit c'est un peu toujours le même scénario, ce film. Mais on voit 3 mois après, le chien qui est là et qui remue sa queue, qui est plein d'amour, etc. On se dit, c'est un chien qui était un squelette dans une poubelle, qui a passé toute sa vie à être maltraité, avec un peu d'amour et des croquettes, peut devenir un être d'amour. Il y a une histoire qui dit, Parfois, certains pratiquants sur la voie bouddhiste, pour apprendre vraiment ce qu'est l'amour inconditionnel, doivent se réincarner en chien. Hein? On voit cet animal qui a un amour inconditionnel, qui est vraiment... Alors qu'il aurait toutes les raisons du monde pour mordre tout le monde, pour se plaindre, pour être déprimé, à demander à voir un psychanalyste, etc. Et donc, on voit que là, un geste d'amour pendant quelques mois, ce n'est pas énorme. Hein, et d'un seul coup, on a un autre chien, complètement différent. C'est remplumé, ses poils ont repoussé. Il est content, il fait là, oh, on est bien ici, on est heureux. Et je crois que c'est ça, en fait, le secret. Les gestes d'amour qu'on reçoit, et donc les gestes d'amour que l'on donne, ça marche dans les deux sens, peuvent être des catalyseurs qui vont permettre de mettre le feu aux poudres d'amour dans l'esprit d'êtres qui ne l'ont jamais connu. C'est pas toujours simple, parce que le chien, moi je suis toujours surpris que le chien morde personne. Moi, il est trop faible, peut-être, le pauvre. Mais c'est très inspirant, ce genre de vidéo. Mais il ne faut pas que j'en regarde trop, parce que je vais finir avec 15 chiens. Moi. Tu voulais l'après ?
Il m'est venu comme ça une image que quand tu parlais de la vacuité, clarté ou félicité, vacuité, compassion, et je me suis dit que d'une certaine façon tout est dans tout. Enfin, je pensais au sigle yin yang dans le sens que il faut la compassion pour que il faut la vacuité pour que la compassion s'exprime. Et en même temps, au travers de la compassion n'est jamais dénuée de vacuité. Elle est dynamique. Elle a, c'est un geste, c'est un élan vers l'autre, ou vers le monde, qui va vers le monde, qui nous revient. Donc, c'est cette dimension inséparable, finalement, de ses qualités, en fait. Enfin, c'est quelque chose qui est apparu quand tu en as parlé.
Le mot vacuité induit en erreur quelque part, parfois, parce qu'il est fortement chargé, il nous envoie vers quelque chose qui est du vide stérile, du rien, de la négation. Mais en fait, on peut le voir plutôt comme un espace. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des gestes d'amour, il faut avoir l'espace dans lequel ils peuvent se déployer. Et quand le geste se déploie dans l'espace, il est indissociable de l'espace. Prendre une autre image, si la vacuité c'est l'océan, les gestes d'amour sont les vagues. Pour que les vagues s'élèvent, il faut qu'il y ait de l'océan. Que la vague est appelée vague dans sa fonction de s'élever, de disparaître, mais qu'en même temps, on pourrait l'appeler l'agitation de la mer, M-E-R. Parce que la vague est l'océan. L'océan a un dynamisme propre qui est la vague, la houle. Donc oui, il y a effectivement une indissociabilité. Et lorsque l'on est dans un mode dualiste, et lorsque l'on parle du vide et de la forme, lorsqu'on parle de l'océan et de la vague, on va dire, oui, mais bon, ça, c'est la vague, c'est pas la mer. Et ça, c'est la mer, c'est pas la vague. On fracture, on divise. Et ça, c'est l'habitude de l'ignorance qui divise et fige tout en sujet-objet, en dualité. Mais quand on regarde, si on regarde l'océan, on peut dire, je regarde la vague, mais on pourrait dire, au même moment, je regarde la mer. Quand je regarde la mer, je vois la houle, je ressens la houle, je vois les vagues. Donc il y a une indissociabilité de l'espace de l'esprit et de l'amour l'amour dans l'espace, donc dans lequel elle se déploie. Il se déploie. Et le propre d'une pièce, c'est d'offrir un espace. L'espace est neutre, en quelque sorte. Après, on va en faire une chambre, on va en faire un salon, on va en faire une salle de danse, on va en faire un temple. Bon, voilà. Mais c'est l'utilisation de l'espace, et l'utilisation est indissociable de l'espace dans lequel cette fonction s'élève. Et cette union indissociable des deux, de la compassion et de la vacuité, de l'intelligence et de la vacuité, de la clarté et de la vacuité, de la félicité et de la vacuité, de l'amour et de la vacuité, en fait, sont des qualités intrinsèques de l'esprit. Elles n'ont jamais disparu, elles n'ont jamais été créées, parce que, bon là je vais aller loin si je commence là, mais bon, allez, vaguement on va y aller. Elles n'ont jamais été créées parce que leur sens est vide. Hein? Et puisque l'essence est vide, il y a l'illusion d'une apparence, mais il n'y a pas une apparence qui soit donc dissociée de l'essence vide. J'arrête. Tu voulais...
Oui, dans certaines situations et avec certaines personnes, j'ai des difficultés... Pardon, c'est mieux. Dans certaines situations avec certaines personnes, j'ai des difficultés à dire les choses. Et peut-être qu'il y a une toute petite partie, c'est par compassion et par peur de blesser l'autre. Mais j'ai l'impression que le bloc principal, c'est peur d'être rejeté. Et voilà, je voulais avoir votre avis.
Tu veux dire ton, hein, ça va. C'est parfois un petit peu compliqué de faire la part des choses. Moi, j'ai tendance à être... Je suis quand même quelqu'un d'assez grégaire, d'assez ouvert en général. Et des fois, je parle trop. Je ne sais pas taire les secrets. Donc, si vous avez des secrets, ne me les confiez pas. J'ai du mal à avoir des barrières. Même moi, je me dis, mais quand même, tu n'as pas besoin de raconter tout ça, quoi. Et puis, la peur peut-être de mettre l'autre en danger, d'avoir une parole qui va être blessante. Je crois que c'est une résistance, comment dire, une attention louable. Maintenant, il est difficile de savoir si c'est vraiment parce qu'on a peur de mettre l'autre en danger ou parce que l'on a peur des conséquences de cette parole. Parfois, il est préférable de dire à quelqu'un ce qu'il doit entendre, mais on le fait au risque de perdre son amitié, son respect, ou si c'est un commerce, sa clientèle. Et donc, on se tait, non pas tellement ou complètement parce qu'on n'a pas envie de mettre l'autre en danger, mais parce qu'on n'a pas envie de se mettre en danger. Donc, il faut beaucoup de discernement pour voir ça. Il faut se tromper beaucoup. Moi, je pense qu'il faut se tromper beaucoup parce qu'on apprend. Si on reste toujours sur son compte à soi, en se disant « quelque chose de terrible peut arriver si je parle », la chose terrible est déjà arrivée, qui est ton silence, qui est empreint de la crainte de quelque chose de terrible. Tu parles avec ton cœur et en partie aussi avec ta tête, en portant quand même un peu d'intelligence dans la conversation. Et puis, tu assumes ce que tu as dit. Si tu t'es trompé, tu dis « je suis désolé, je n'étais pas très clair, ma pensée n'était pas bien construite, j'étais un peu excessif, j'étais rapide dans mon expression, etc. Je m'excuse. » Ou plutôt « excuse-moi », c'est plus correct. Il faut prendre un risque. Toute la communication, toute la danse, c'est prendre un risque. On va danser ensemble, on va se marcher un peu sur les pieds, quoi. Fred Astaire et Ginger Rogers, ils ne sont pas devenus les danseurs et danseuses qu'ils sont en faisant salon et tapisserie, quoi. Ils y sont allés, il a fallu apprendre. Et, bon, on marche un peu sur les pieds. C'est ça l'art de la danse. Je suis désolé. Hop. Et il y a beaucoup de choses à apprendre dans ça. Mais d'être aussi très humble, d'être prêt à reconnaître son erreur. On a été excessif, on a été maladroit. Ça, c'est une chose. Et puis après, il y a aussi le fait qu'effectivement, certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre la réalité. Par exemple, on va voir quelqu'un qui est en phase 4, terminale de cancer. On lui dit, ah, t'es pas au courant? Ils t'ont pas dit, les médecins? Tu vas crever bientôt. Hein? Bon, là, effectivement, c'est peut-être pas, si cette personne ne veut pas savoir, il faut respecter ce désir de ne pas savoir. C'est la communication, c'est la danse de la communication. On se marche sur les pieds beaucoup. Quoi. On se marche beaucoup sur les pieds. Mais on le fait pas méchamment. Et puis, voilà. Un coup, c'est moi qui marche sur les pieds. Un coup, c'est toi qui marche sur les pieds. Puis, il y a des fois, il y a la magie. D'un seul coup, on danse et on ne touche plus le sol. Ça arrive aussi, ça, dans la communication. Toujours prendre un petit risque. Toujours prendre un petit risque.
Oui, tu disais tout à l'heure, donc la qualité de l'éveil est compassion et son essence, sa nature est vacuité. Donc, et dans la compréhension que je peux avoir des enseignements, j'ai l'impression que la compassion et vacuité sont indissociables. Mais est-ce que la compassion ne précède pas toujours la vacuité, dans le sens où il faut la compassion, c'est la dynamique du non-soi quelque part. Et même s'ils sont indissociables, est-ce que la compassion ne va pas précéder? C'est-à-dire qu'il faut reconnaître le non-soi pour pouvoir accéder à la vacuité.
Bah, c'est pour ça qu'il y a une grande discussion avec Shama Rinpoche à propos de cela. Le texte « L'entraînement de l'esprit en 7 points », il commence par… certains commentateurs, parce qu'il y a de nombreux textes qui ont été écrits sur le sujet, certains commentateurs commencent par, on va dire, la bodhisattva absolue, c'est-à-dire par la vacuité, pour en quelque sorte mettre en place le cadre. Dans ce cadre-là, de l'océan, les vagues de la compassion vont s'élever. Et donc ensuite, on a l'exposition de la vérité relative, de l'esprit d'éveil, la bodhisattva en mode relatif. Et moi, ça m'a toujours paru finalement une approche intéressante parce que on met en place le cadre. D'accord? Et ensuite, on dit dans ce cadre, les vagues de la compassion, l'action de compassion vont s'élever. Shama Rinpoche, il a beaucoup réfléchi quand il a écrit ce texte, La voie vers l'éveil, qui s'inspire de l'entraînement de l'esprit en 7 points, avec ses commentaires personnels, avec sa vision des choses, certains slogans qu'il a rajoutés, etc. Et il a beaucoup réfléchi à savoir s'il allait faire une présentation classique, c'est-à-dire la bodhicitta absolue d'abord, et ensuite la bodhicitta relative. Ou est-ce qu'il allait faire une présentation qui serait plus accessible, c'est-à-dire commencer par la bodhicitta relative, l'amour, la compassion, etc., et tout le travail autour de cela, et ensuite présenter la bodhicitta absolue en disant « Commençons là où sont les gens, dans quelque chose qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus finalement palpable, quelque part. Hein. » Et puis finalement, il est resté sur la présentation classique. Parce que la présentation de la bodhicitta relative, l'amour, la compassion, etc., peut quelque part, et c'est un des slogans qui dit renoncer à la nourriture empoisonnée. Hein? Alors, donc, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ne solidifiez pas l'exercice de l'amour et de la compassion comme étant une réalité absolue qui se passe entre un sujet et un objet. Il y a une, pour utiliser un mot un petit peu compliqué, la réification. C'est-à-dire qu'un concept devient une réalité. Donc, si l'on travaille d'abord la mise en garde préliminaire. Attention, vous rentrez dans le monde de l'illusion. On risque de solidifier l'acte compassionnel entre un sujet aimant vers un sujet en souffrance. Et on risque là, il y a un écueil qui est là très, très fort, c'est d'arriver au moment où notre capacité d'aide à l'autre et la volonté que peut avoir l'autre à être aidé arrive à une limite. Et là, on va voir la compassion qui va se transformer en dépit, voire en colère. Mais bon sang, je fais tellement d'efforts, laisse-toi faire, laisse-toi libérer, bon sang.
Alors, en fait, c'était, j'ai pas précisé vraiment la question, c'était pas par rapport à l'enseignement, au savoir, mais par rapport à l'expérience.
Ouais.
C'est-à-dire que dans l'expérience, est-ce que la compassion émerge avant la vacuité? Alors, bon, on dit qu'elles sont indissociables, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans l'expérience qui va... Est-ce que c'est la compassion qui va précéder? Est-ce qu'elles émergent ensemble?
À de très rares exceptions près, je pense que c'est d'abord la compassion qui est, en quelque sorte, qui mène l'aventure. Parce que on sort un petit peu de l'égocentrisme, du nombrilisme, on voit l'autre, et on est quand même encore tout à fait dans une relation d'un sujet vers un objet, une relation dualiste. Mais on a quand même modifié la donne, on n'est plus tellement dans une relation de commerce et de défense, m'accaparer ce qui est bien et rejeter ce qui, à mon sens, est un problème ou une menace. On est plutôt dans une volonté bienveillante d'être en aide à autrui, même si c'est dans le cadre encore samsarique, on va dire, hein, de l'existence conditionnée, du mode d'être conditionné qui est dualiste. Et donc, c'est un premier pas qui va en quelque sorte assouplir le caractère. La compassion va assouplir le cœur, va assouplir, agrandir le cœur et faire en sorte que l'on est moins psychorigide, égocentré. Donc déjà, c'est un pas important quand même. Et bien sûr, par l'exercice spirituel qu'on fait en parallèle, on va commencer. Alors, les slogans de la bodhicitta en mode absolu, c'est premièrement, vivez toute expérience comme vous vivriez l'expérience d'un rêve. Hein? Le rêve, lorsque l'on est dans l'illusion du rêve, tout nous apparaît comme étant réel. Il y a de la joie, il y a de la souffrance, tout ça est terriblement réel, mais en même temps, on s'éveille et quand on sort du rêve, on s'aperçoit que tout ça n'a pas vraiment existé, si ce n'est dans le contexte. C'est contextuel, ce n'est pas absolu. D'accord ? Donc, on commence à s'entraîner à voir le monde comme contextuel et relatif et non pas comme étant une réalité absolue. Donc, c'est changer un petit peu son point focal. D'accord ? Et donc, par le travail méditatif du calme mental pour rendre l'esprit opérationnel, de la vision pénétrante, on va dire un peu analytique, pour arriver à une rencontre de l'esprit en lui-même beaucoup plus naturelle, on va faire tout un chemin comme ça de découverte méditative, ce qui va avoir comme effet de modifier la nature de notre compassion. Hein, il y a la nature de la compassion de tout un chacun, qui est de voir l'autre en souffrance et le cœur a envie d'aider. Mais on est dans un contexte dualiste et on rencontre les limites. On rencontre les limites de notre capacité, de notre énergie, de notre temps, et puis aussi l'autre. Hein? Parce que c'est un peu comme les mouches. Vous savez, quand on veut essayer de les libérer, on ouvre une fenêtre et ils sont sur l'autre moitié de la fenêtre à se taper. Et il y a un moment, souvent, on veut les libérer, on les écrase. Hein? C'est un petit peu malheureux. Mais... Et donc là, on peut arriver à cette limite-là, un peu d'épuisement, lorsque notre bodhicitta n'est pas encore empreinte d'une vision beaucoup plus large. Lorsque qu'on commence à voir donc la nature, comment dire, fausse de notre perception du monde dans une dualité permanente et que l'on dépasse un petit peu dans l'expérience méditative cette dualité, eh bien, notre compassion ne prend plus vraiment pour objet la souffrance à proprement parler des êtres, mais le cadre dans lequel la souffrance émerge dans leur expérience, c'est-à-dire l'ignorance. Et donc, notre cible va être l'ignorance des êtres plutôt que la souffrance, parce qu'on voit que leur souffrance, en dehors du contexte et du conditionnement de l'ignorance, n'existe pas. Hein? Et donc là, on a une compassion qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus essentielle et beaucoup plus large, et qui du coup n'est plus limitée par la contrainte du cadre dualiste que l'on pouvait expérimenter en tant qu'être commun. Hein? Le bodhisattva avec une vision transcendante a une compassion qui a pour objet le cadre et l'ignorance dans lequel l'expérience de la souffrance est possible, quand bien même elle n'existe pas. Donc là, c'est la sagesse qui va après enrichir la compassion. C'est pour ça que je dis, oui, effectivement, relativement, c'est comme ça qu'on va commencer à démarrer le mouvement, par une compassion relative, mais avec le travail sur la vérité absolue, on va magnifier la compassion, on va l'enrichir. Elle va être beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde. Et là, je parle de la compassion des bodhisattvas, je ne parle même pas de la compassion des bouddhas. Hein, parce que la compassion des bouddhas, c'est encore une autre catégorie. C'est absolument sans référence. C'est simplement la nature même de l'esprit qui est compassion. Et pour donner une illustration, je parle de l'océan et la façon avec laquelle l'océan s'ouvre pour accueillir la quille et la coque des bateaux. Et pour fournir un support qui permet au bateau de flotter. Ça, c'est la compassion des bouddhas. Il n'y a pas d'intention dans, il n'y a pas de pilote dans la mer qui calcule, ou d'ingénieur nautique qui calcule le volume de la coque, etc., et qui fait en sorte que les eaux s'ouvrent au bon moment, etc. C'est la nature même de l'océan que de recevoir et de soutenir avec un volume adapté la coque du bateau. Mais là, on est encore dans une autre catégorie. Il n'y a plus d'agent central.
Est-ce que je peux poser une question?
Bien sûr. Ah oui, je serai la même, mais bon, j'ai un peu de maîtrise quand même. Vas-y Arnaud, vas-y, on blaguait.
Vas-y. Quand je fais chiner, il m'arrive parfois d'avoir des moments de calme mental. Il n'y a plus tous ces nuages, toutes ces pensées, toutes ces émotions. Tu parlais de la métaphore de la vacuité qui serait comparable à l'espace. Est-ce que quand j'expérimente ça, donc le calme, ce calme mental que je peux parfois connaître en chiné, je me connecte, est-ce que je suis en contact avec la vacuité?
Ben, premièrement déjà, l'esprit n'a jamais été déconnecté de la vacuité. Donc, ce n'est pas que tu te reconnectes, c'est que le bruit qui couvrait l'expérience de la vacuité a cessé pendant un moment. Si tu veux, moi, l'exemple que je donne, c'est il y a un silence de fond, c'est la vacuité. Et puis, il y a un petit garçon qui arrive avec une petite flûte et qui fait… Donc, ça va déjà couvrir le silence. Et puis, il y a un orchestre bavarois de Oompa Oompa, avec des cuivres et des tambours, qui commence à jouer. Du coup, on n'entend plus le gamin avec sa flûte, et le silence a complètement disparu, parce que c'est quand même quelque chose de très bruyant. On enlève les instruments les uns après les autres. Hein, c'est tout le travail du calme mental, c'est que on ne souffle plus dans le trombone. Donc, du coup, le trombone ne fait plus oumpa oumpa. Et du coup, on commence à entendre le gamin avec sa flûte. Et puis, on ne souffle plus dans la flûte. Et là, on commence à percevoir le silence. Et percevant le silence, on commence à voir sa chaleur. Il y a une couleur, il y a une chaleur dans le silence. Quand l'esprit est dans ce silence et dans cette ouverture, il y a une chaleur qui est cet amour non référentiel, non, qui n'est pas un amour construit, et simplement une ahimsa en sanskrit, une non-violence, et donc une forme de tendresse et d'amour. Et on peut la traduire parfois par un sentiment de félicité. Hein, ce sont les expériences de Shiné, de calme mental. Dans cette ouverture, il y a un sentiment, on peut avoir les larmes aux yeux. On peut avoir vraiment quelque chose de, comme ça, un émerveillement. Et cet émerveillement, c'est de l'émerveillement. On peut aussi lui donner le nom de félicité parce que c'est... extrêmement libre de toute contrainte, donc c'est libre, une grande félicité, mais aussi ça peut être un sentiment de gratitude, mais aussi ça peut être un sentiment d'amour infini. Et je citais pour moi comme très bonne illustration du chemin de Shiné, le poème de Rimbaud, par les soirs bleus d'été, j'irai par les chemins. Hein, je sentirai l'herbe menue fouler mes pieds, le vent dans mes cheveux. Je ne penserai rien. J'irai loin comme un vagabond, heureux comme avec une femme. Hein, je paraphrase de mémoire comme ça. Et ce sentiment-là, si vous lisez ce poème encore et encore, vous voyez les soirs bleus d'été, vous voyez les champs de blé fraîchement coupés dans lesquels on marche pieds nus. Vous sentez le vent dans les cheveux. Voyez l'esprit qui est libéré de toutes les contraintes, la liste des courses et des choses à faire. Pff, tout ça, c'est parti. Et j'irai loin, rien ne m'arrête, comme un vagabond, comme un gitan. Heureux comme avec une femme. J'adore cette phrase. Heureux comme avec une femme. C'est-à-dire qu'on a goûté la félicité d'être avec une femme, mais on s'est aussi libéré de la complexité d'être avec une femme. Ça marche avec l'homme aussi, je vous rassure. C'est ce sentiment de... Ben, on l'a tous expérimenté, le moment de complicité et de rencontre où tout est léger, tout est merveilleux, tout est fantastique. Et puis après, il y a la vie commune. Donc, heureux comme avec une femme. Ou heureux comme avec un homme. Et moi, je pourrais dire aussi heureux comme avec un chien. Mais je vous invite vraiment à lire ce poème de Rimbaud. Pour moi, il décrit parfaitement l'expérience de félicité, de non-conceptualité et de clarté de Shiné. C'est la meilleure illustration que j'ai trouvée. Parce qu'il n'en parle pas. C'est peut-être pour ça que c'est la meilleure illustration. Il parle de ce qu'il vit. Il n'est pas en train de faire un cours sur le calme mental. D'accord? Par les soirs bleus d'été. Bien, je crois qu'on a fait beaucoup de chemin là, ce soir. Donc, continuez à réfléchir un petit peu, laissez percoler, comment on dit? Oui, bouillir, enfin pas bouillir, pas bouillir parce que vous avez la fumée qui sort des oreilles, mais infuser, laissez-le infuser. On se retrouve demain matin. Et demain matin, ben, c'est la dernière session demain matin, je crois. Ouais. Le temps passe vite, hein. Bah demain matin, affûtez vos crayons parce que c'est la dernière occasion de mettre tout ça en forme et de repartir à la maison avec un petit bagage qu'on pourra continuer à creuser et à travailler. D'accord?
J'ai retrouvé la parole. Est-ce que je peux dire au revoir à tout le monde?
Ah,
oui, bonsoir. Je voulais dire à ceux à qui je n'ai pas pu dire au revoir puisque je suis partie en début d'après-midi que... Bah, merci à vous tous d'avoir partagé ensemble cet enseignement. Et je voulais remercier les personnes du centre, Pierre, Cécile, Manon et les autres, voilà, de rendre toujours possible ces moments et de nous rendre le séjour tellement agréable. Et bien sûr, Lama Tsoni, je te remercie également.
Et puis la Matsutrim quand même un peu.
Oui, bah oui, mais bon, autant pour moi.
Le moteur invisible.
Et oui, bien sûr.
Merci beaucoup Ilka, bonne soirée.
Oui, bonne nuit à tout le monde.
Voilà, au plaisir de se retrouver sur les ondes un de ces jours en septembre.
Oui. Et oui, au revoir.
Bien, allez, partageons. Par cette vertu, le grand saut promptement réalisé, tous les êtres sans exception en cet état, puissions-nous les établir. Par ces bienfaits, puisse l'omniscience être obtenue et les ennemis funestes vaincus, des flots troublants de naissance, vieillesse, maladie et mort, de l'océan des possibles, ce qui erre, puissions-nous délivrer. Merci beaucoup. Merci à vous en ligne. Rendez-vous demain si vous le voulez bien. Bonne soirée.
Merci Lama. Merci infiniment.
Merci Lama.
Bonne soirée.
Bonne soirée à tous.